L'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Eh bien aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller faire un petit tour du monde de la gastronomie et des cuisines populaires en vous rendant tout simplement au pied de la Tour Eiffel dès demain jusqu'à dimanche. C'est la 4e édition du Village International de la Gastronomie et des Cuisines Populaires. Alors, c'est pour qui? C'est pourquoi? Pour en savoir plus, nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Ripari, fondateur du Bureau d'études gastronomiques et un chef que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser, notamment grâce au petit écran, Grégory Cohen. Bonjour et bienvenue messieurs.
Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour, bonjour Laurent. Bonjour, bonjour. Alors, ce village de la gastronomie, il sert à quoi? Il propose quoi? Il est pour qui? Il est pourquoi? On va tout vous dire. Sébastien Ripari, je le rappelle, vous êtes le fondateur du Bureau d'études gastronomiques. Tiens, ben c'est quoi? Soyons clairs.
C'est expert gastronomique. Pour oui, résumer, c'est
quoi
ça,
ce bureau d'études gastronomiques?
L'émission fait une heure et demie, donc non, on a le temps.
Non, vous avez très peu de temps.
En gros, je travaille avec les chefs étoilés dans le monde depuis plus de 20 ans. Ouais. Je les audite, je vais chercher des étoiles, des titres, etc. Je fais beaucoup d'événementiels avec eux. Je les place sur des restaurants, des ouvertures. J'ouvre des restaurants, je donne des conférences sur les tendances et je représente régulièrement à travers le monde la gastronomie française par mon expertise. Et souvent, j'emmène avec moi des copains chefs. Voilà.
Des copains chefs, il y en a à côté de vous.
Absolument.
Bon, bah, question toute simple. C'est la 4e édition, hein, c'est ça, du village international.
Oui, c'est la 4e édition. On a un tout petit peu modifié l'emplacement. Cette fois, on est dans les jardins du Trocadéro, donc toujours au pied de la Tour Eiffel, là où il y a les fontaines.
Oui, d'accord, je vois.
On a une soixantaine de pays présents.
Ouais,
on a un jour de plus, puisqu'on commence demain, 21, jusqu'au 24.
Jusqu'à dimanche.
Les horaires, c'est 10h à 22h.
Mais je vais dire tout ça.
Et on est bien.
Mais... non, mais alors, tout ça, c'est bien. On a le lieu, d'accord. Je vois très bien les jardins du Troca, donc autour de la Grande Fontaine.
Là.
Ah oui, c'est vrai que l'an dernier, vous étiez vraiment au
pied.
C'est ça. Mais c'est une meilleure vue pour la Tour Eiffel.
Oui.
Vous serez mieux pour la voir. Bon, mais on veut savoir quand même, quel est le but de ce rendez-vous gourmand?
Le but est de partager, alors la moitié du titre, il y a le village de la gastronomie et les cuisines populaires. Oui. L'idée de la personne qui a fondé ce village il y a 4 ans, Anne-Laure Descombins, c'est de se dire, moi j'ai envie qu'on découvre la cuisine comme elle est faite dans les pays. Pas comme on l'imagine en France.
Dans les restos qu'on a, notamment à Paris.
Donc on va faire venir les grands chefs de ces pays. Ouais. On va être proche des cuisines des mamans.
Approchez-vous du micro.
Des cuisines des mamans. Et c'est vrai, c'est la première fois avec toi, Laurent. Et donc du coup, l'idée première, c'est de se dire, on peut faire 1,50 m de marche et on change de continent, on change de cuisine, on change de pays. Chaque fois, vous avez les meilleurs produits, les meilleurs chefs qui représentent leurs produits, leur région, leur pays. Parce que c'est vrai que c'est des cuisines régionales. Et l'idée, c'est d'offrir aux Parisiens, aux touristes, à ceux qui veulent venir, pour 4 € d'entrée, un voyage gastronomique à travers le monde.
Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est vraiment un petit village. Hein. Il y a des petites tentes.
Et dans chaque tente, il y a une cuisine, quelqu'un qui va vous faire des spécialités de son pays. Vous pouvez acheter une bouchée, un plat, une entrée. Et c'est le principe du food court. Vous allez prendre l'entrée en Guyane, vous allez prendre le dessert en Grèce. Et puis vous partagez au milieu, sur des manches debout, cette expérience, ce tour du monde de la gastronomie.
Il n'y a que à manger ou il y a à boire aussi?
Il y a à boire. On a le plus jeune vigneron de Champagne qui s'appelle Maxime Blin qui sera présent aussi pour faire découvrir ses champagnes. Autrement, on n'a pas grand-chose à boire. On a des petites découvertes, mais il y a pas mal de surprises. D'accord. Et puis il y a de la musique.
Oui, il y a des concerts, il y a de la musique, il y a des spectacles. C'est une sacrée installation quand même d'avoir installé.
C'est énorme.
Il y a combien de petites huttes, de petits villages?
On est à plus de 55.
Ah oui, quand même. Hein.
Voilà, absolument.
D'accord.
Et puis il y a des grands chefs.
Oui, il y a des grands. On va en parler aussi. Non, ce qu'on va dire également, c'est que ce tour du monde de la gastronomie, il a un président, Stéphane Layani, qui est président directeur général de la Cémaris. Je voulais juste avoir qu'on explique.
Absolument,
il
y a une autre marraine.
Je voulais savoir ce que c'était la Cémaris.
Ah, c'est une bonne question. C'est Rungis.
D'accord,
c'est le marché de Rungis.
Parce qu'on en parlera bientôt.
Absolument.
Du marché de Rungis. Très bien. Et le parrain. Alors, les parrains, c'est. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Alors, il y a Guylaine Arabian.
Qui est une chef.
Qui est une chef, absolument.
Ouais. Thierry Charrier.
Normalement, je pense qu'il est parrain. Là, je ne sais pas trop.
Si, moi, j'ai lu ça.
Non, je crois que voilà. Il y a eu des petits changements de dernière minute. On va se dire qu'il y a Stéphane Layani en parrain et il y a Guylaine Arabian.
Voilà. Et également une chroniqueuse télé qu'on aime beaucoup sur France 2, je crois, qui sera là aussi, Karine Tessandier.
Normalement absolument.
C'est un amour.
Bon, bah, oui, exactement. C'est la 4e édition, Sébastien Ripari. Ah, on va s'intéresser à vous, vous inquiétez pas, chef Grégory Cohen. Mais je voulais juste savoir, Sébastien, quel était le bilan que vous avez tiré de la 3e édition l'an dernier. Ça a été un gros succès, je crois.
On a fait 45 000 visiteurs en 3 jours, sachant qu'il avait plu. Oui. Très fort le dimanche, gros orage. On a eu beaucoup de retours positifs de personnes qui étaient et des participants et effectivement des visiteurs qui ont trouvé que c'était un moyen de se promener avec ses enfants, découvrir la gastronomie. On n'a pas tout le temps de voyager et d'aller voir, de faire des grands trajets avec ses enfants. Et là, c'est un moyen très simple de découvrir la cuisine. Mmh. Et les retours étaient tellement positifs qu'on n'a pas attendu une année pour le refaire, puisqu'on avait fait ça en octobre et qu'on se retrouve au mois de mars.
Et que le temps sera exceptionnel. Ce week-end. Vive le printemps. Cette année, c'est la Géorgie, le pays d'honneur. Jeudi soir, il y aura un grand banquet provençal orchestré par 6 chefs de la destination à l'honneur, donc la Provence. Et puis, sur le village de la gastronomie, vous pourrez rencontrer le chef Grégory Cohen. Ça tombe bien, il est là, on va parler avec lui dans 3 minutes.
France Bleu Paris. France Bleu.
C'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouer du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il serait mort du genre d'honneur qu'elle honore. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là après tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire il sait de vivre, et c'est d'être heureux, ça vaut le coup. Les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Thank you.
jouer du piano debout, France Gall évidemment, sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Stand, restauration, vente de produits de producteurs, concerts, spectacles, cours de cuisine, démonstrations avec des chefs d'exception. Voilà ce qui vous attend à partir de demain jusqu'à dimanche. En face de la Tour Eiffel, hein, vous voyez, dans le jardin du Trocadéro. C'est la 4e édition du village de la gastronomie et des cuisines populaires. Et c'est de 10h à 22h avec nous aujourd'hui Sébastien Ripari, du bureau d'études gastronomiques, et un chef présent sur l'événement, Grégory Cohen. Grégory, rebonjour.
Rebonjour.
Je vais signaler que le grand public vous connaît notamment grâce à une émission qui était diffusée en 2017 qui s'appelait Shérif. Chéri, c'est moi le chef.
Pas Shérif, fais-moi peur.
Non, c'est pas le même. Mais je vais résumer votre parcours parce qu'il est assez intéressant, comme tous les parcours d'ailleurs d'artistes et de chefs. Un chef, c'est un artiste. Bon, la cuisine, on va le dire, c'est une affaire de famille. Vos parents tenaient un grand restaurant, le Galambert dans le 7e, hein, c'est ça?
C'est ça,
tout le monde défilait, ou quand vous étiez petit, vous trimballez à travers les tables, non, c'est ça?
C'était un peu ça, avec personnalités complètement incroyables.
Qui est-ce qui est venu manger?
Il y avait Gainsbourg, c'était sa cantine, il était juste en face, Belmondo, et puis Lino Ventura, ça c'était fabuleux.
Et incroyable. Vous y alliez les voir?
Et moi j'allais les voir, j'étais habillé avec ma petite tenue de cuisinier, ils me faisaient monter un petit peu comme le singe savant, le petit singe savant qu'on fait sortir, et puis je leur mettais les plats que je venais de préparer.
Mais oui. Ah, déjà à cet âge-là?
J'avais 13 ans et demi, 14 ans, et c'est avec Lino Ventura que j'ai appris à faire les pâtes,
parce que
quand le restaurant fermait, Lino disait bon alors maintenant on y va, on fait les pâtes.
Et alors, il faisait comment?
Mais c'était extraordinaire. Bah, c'est lui qui m'a appris, par exemple, que les pâtes, pour vraiment réussir ses pâtes, il faut arrêter la cuisson avant que la pâte soit complètement cuite et continuer à la faire cuire dans la sauce.
Ah, sort de l'eau?
Eh oui. Et c'est tout le secret. En France, on a plutôt l'habitude de cuire la pâte complètement et puis de rajouter la sauce par-dessus.
Oui, bien sûr. Bah oui.
Bah, c'est toute la différence.
Cuire dans la sauce.
Ah, pas mal.
Et du coup, la sauce imprègne la pâte.
Si d'ailleurs on enlève l'eau, on laisse les pâtes dans la casserole.
On met un petit peu d'huile pour pas qu'elle colle. On met la sauce tout de suite et on continue à les faire cuire dans la sauce. Du coup, elles s'imbibent, elles sont hyper bonnes et voilà. Donc ça, c'est.
Il faut faire une bonne sauce.
C'est Lino.
Alors vous avez ouvert pas mal de. Vous avez commencé par ouvrir un restaurant de burgers qui s'appelait le Bab, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. En 2015, vous avez fondé une pâtisserie. Je sais pas si on dit Mon éclair. Mon éclair, parce que s'il y avait un concept autour de l'éclair sans gluten.
Sans gluten,
qui a plutôt bien marché, je crois.
Ouais.
Février 2018, vous ouvrez le restaurant Montmartre, dans l'hôtel Montmartre. Donc, on est 42 rue d'Or, c'est dans le 18e.
C'est ça,
Montmartre. Et puis, depuis septembre, vous êtes au 99 à l'hôtel Baumann?
À l'hôtel Baumann, au 99, au restaurant qui s'appelle le 99 Haussmann.
Situé au 99.
Et donc, comme son nom l'indique, c'est facile à se rappeler.
Bon, alors c'est un parcours logique, puisque vous êtes né dans la cuisine, mais je crois que vous avez fait un séjour de 10 ans aux États-Unis. Et je voulais savoir, est-ce que c'était pour apprendre la cuisine ou pour autre chose? Parce que pourquoi on va aux États-Unis alors qu'on peut tout apprendre ici?
Non, c'était complètement pour autre chose. En fait, quand j'ai commencé à travailler en cuisine, j'avais 13 ans et puis le service militaire à l'époque était obligatoire et donc à mes 23 ans, j'en avais repoussé au maximum, je fais mon service militaire et là je me rends compte qu'il y a une vie en dehors de la cuisine parce qu'en fait quand on travaille dès l'âge de 13 ans, les booms ça n'existe pas, les soirées pyjama chez les copains ça n'existe pas non plus, donc en fait je découvre qu'il y a une vie en dehors de la cuisine. Je suis censé revenir et faire le compagnonnage, donc
oui,
je suis censé aller chez Bocuse, Trois Gros et compagnie, et c'était vraiment très charté et très organisé. Et en fait, quand je finis mon service militaire, je prends la décision de dire, je reviens pas. Je vais faire un tour du monde, je vais découvrir la vie et je vais voir ce qui se passe en dehors de la cuisine.
Classe.
Et
chance, ça, de faire ça.
Et j'ai la chance de le faire. Et je le fais sans vraiment beaucoup de moyens. Je me retrouve, d'abord, je démarre à Haïti. Manque de bol, il y a un coup d'État à Haïti. Ce qui fait que la vie m'amène à New York. En fait, les seuls avions qui partaient d'Haïti,
c'était
Miami ou New York. Bon, là, je me retrouve à New York. Et puis à New York, je rencontre une communauté de Français. Et puis, je reste là-bas pendant pas mal de temps. Et je travaille dans le digital et dans la communication.
Ah, c'est pour ça que vous savez très bien communiquer. Voilà, que vous utilisez aujourd'hui tous les Facebook, les réseaux sociaux, etc. pour communiquer. Mais c'est ça aujourd'hui, quand on travaille dans ces métiers, on va dire de bouche, hein, comme on dit, il faut aussi aujourd'hui, pour être un chef, savoir communiquer. Ça marche comme ça. Vous n'allez pas me contredire, Sébastien.
3C. 30% de communication, 30% de comptabilité, 30% de cuisine. Les 10% qu'il y a, c'est le décorum parce que vous êtes le fils d'eux ou un bel endroit. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, vous êtes mort. Vraiment. Et encore plus avec les nouvelles générations, avec le zapping rapide qu'on peut avoir sur les informations, bah oui. Il faut communiquer.
Ouais, ouais. Et être un bon chef. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, je me suis demandé hier, qu'est-ce qu'on appelle un chef ? Quand est-ce qu'on peut dire c'est un chef ?
Je pense que les autres vous appellent en cuisine chef.
Non, c'est pas un degré, c'est pas. On passe pas.
On est chef que en cuisine. Hein. Je vous rassure, quand on arrive à la maison, on n'est plus du tout chef. On revient dans le commun des mortels. C'est ça.
Non, il y a pas de loi. Il y a des chefs qui n'ont pas eu de formation, qui ont appris sur le tas. Donc c'est pas forcément de la formation. Je pense vraiment que c'est quand vous avez un respect de vos brigades ou en tout cas des gens qui travailler avec vous, c'est une façon de parler.
C'est Auguste Escoffier qui a inventé en fait tout ce système de chef, etc. C'était le chef de cuisine. Il était un chef de cuisine dans les armées françaises, et donc il a créé ce système de brigades.
Ah oui, bien sûr.
Et donc en fait, quand on rentre en cuisine, il y a les brigades, et donc il y a le chef qui est l'autorité, qui a le final cut, et puis les autres en dessous. Donc dès qu'on rentre dans une cuisine professionnelle, on a le titre de chef. D'ailleurs, c'est génial parce que c'est le seul titre où on n'a pas forcément besoin de faire des grandes études et on est chef. Quasi à vie.
Grégory Cohen, je sais qu'une de vos batailles, c'est de lutter contre la malbouffe et le gaspillage. Bon, c'est très tendance, évidemment. Je voulais juste savoir, à notre niveau, à nous, qui sommes consommateurs un petit peu cuisiniers à la maison, on est bien d'accord, c'est quoi, quel est le, à votre avis, le comportement que nous devons faire évoluer au quotidien, Grégory ?
Alors, travailler des produits frais, c'est pas plus long et pas plus compliqué que travailler des produits déjà transformés. Non, c'est pas plus cher non plus.
Il faut savoir
par exemple que je donne un exemple. Quand on va acheter une poêlée de légumes déjà faite et qu'on va essayer de la réchauffer, on va se retrouver généralement avec une courgette qui va être complètement molle. On va se retrouver avec une carotte qui va pas forcément être cuite pour une raison qui est simple, petit moyen mémotechnique que j'ai expliqué hier. Plus c'est long, plus c'est dur, plus c'est court, plus c'est mou. Je pense que ça parle à tout le monde en cuisine. C'est-à-dire que la carotte prend plus longtemps à cuire que la courgette.
Ah oui, c'est vrai.
Or, si je mets la courgette et la carotte en même temps à cuire, je me retrouve avec une bouillie de courgette et une carotte qui sera cuite. Et donc, une fois qu'on sait qu'on travaille à peu près comme ça et que j'ai fait bouillir ma courgette et ma carotte, un, je garde le bouillon. Deux, je garde les pelures.
Ouais.
Parce que le bouillon, je vais pouvoir l'utiliser pour faire cuire autre chose, ou je vais pouvoir le réduire pour faire un bouillon. Les pelures, je peux les congeler et les réutiliser pour faire un bouillon de légumes.
Absolument.
Donc en fait, je suis dans un cercle qui est un cercle assez vertueux, économique.
Mieux que d'acheter des bouillons cubes.
C'est mieux que d'acheter des bouillons cubes.
Oh mon Dieu, il y a beaucoup de mauvaises choses dans les bouillons jaunes.
Bon, alors, est-ce que c'est ça que vous allez faire durant ces 4 jours au village de la gastronomie, Grégory ?
Village de la gastronomie, on va s'amuser, on va partager avec le public, avec le plus grand nombre, et on va permettre aux visiteurs qui vont être là de découvrir une cuisine gastronomique et de la goûter. Une cuisine gastronomique, moi, au 99 Haussmann, tout le monde ne peut pas forcément venir puisque c'est un hôtel 5 étoiles, restaurant. Ouais. Alors, on a des menus à 45€ à midi, mais tout le monde ne va pas pouvoir venir.
Non.
Donc là, on se retrouve dans un village populaire. Et là, c'est ce que je préfère au monde. C'est pour ça que cette émission que je faisais, je l'adorais parce que je rencontrais le public et que je le faisais de façon totalement décomplexée et abordable pour tous. Là, on va préparer des recettes. Moi, je vais leur expliquer comment faire un œuf, comment avec un œuf, on va pouvoir faire une entrée gastronomique.
Il y a deux choses super importantes. D'abord, les gens vont pouvoir voir les chefs en direct cuisiner face à eux.
C'est génial.
Ça, c'est quelque chose quand Grégory est au 99 Haussmann. C'est vrai qu'on n'est pas forcément face à toi en cuisine, on passe à te voir cuisiner.
Nous, on a une cuisine ouverte.
Oui, mais pas tout le monde.
On les voit vraiment.
Et puis, c'est le côté ludique. Il y a toute une série de grands chefs qui viennent participer. On a parlé évidemment de Grégory. On a Christian Estebech. Il y a Fanny Rey,
très
chef étoilé.
Comment t'as dit Estebech.
Jacques Pourcel. On a Pascal Favre d'Anne.
Prenez vos
également,
lunettes.
On a Frédéric Jeannot. Alors, tu parlais des carottes. Frédéric Jeannot est un mof et le seul type qui est capable. Meilleur ouvrier de France.
Merci.
spécialisé dans les fruits et les légumes, d'où son titre de nom.
Bref, il y a beaucoup de chefs.
Non, mais c'est...
Bon, ouais, eh ben, on va continuer à en parler. Il y a tout sur le site internet.
Non, c'est top.
Tiens, avec France Bleu, on va mettre un lien, évidemment. Connaissez-vous la cuisine géorgienne? C'est le pays à l'honneur cette année sur le village de la gastronomie. Alors, à quoi ça ressemble? Peut-être qu'on va en parler. On en parle si, on en parle dans un instant. Avec vous, Sébastien Ripari, on s'intéressera aussi au côté concert-spectacle. Je vais avoir quelques infos là-dessus. Ce sera tout de suite après notre rendez-vous quotidien qui s'appelle Accès Privé avec notre reporter Héloïse Erignac. Alors, elle va nous faire découvrir totalement autre chose, quoique... Un four antique, un système de chauffage très 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 ancien en plein cœur de Paris. Vous en saurez plus dans un instant.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Rien ne dure, 9 mois puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser, combien de temps d'amour à partager? Rien ne dure, des passions, des secrets, ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. On n'a pas le temps de freiner, que la Porsche de James Dean s'envole en fumée. À toute allure, gloire apogée dans cette course effrénée, et ce peu qu'il reste à partager. Tout se meurt avant la vie d'après, pour nous simples mortels, tout change sous le ciel. Ou alors
dur. Pascal Obispo sur France Bleu Paris.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu.
France Bleu aime le cinéma.
Ben, c'est pas possible qu'on soit plus jamais toi et moi.
Un mari aigri, Étienne, son amant parti, s'en est trop. Simone décide de quitter Gilbert.
Que tu t'en ailles, ça m'a ouvert les yeux.
Moi aussi, j'ai les yeux ouverts. Je veux que tu me rendes ma liberté.
Gilbert va-t-il réussir à reconquérir Simone?
Oui, Simone.
Elle veut pas te voir. C'est de comprendre, Gilbert.
Qui même me suive, un film avec Catherine Froh, Daniel Auteuil et Bernard Lecoq, actuellement au cinéma. Les émissions à la bande-annonce sur francebleu.fr.
Ah, on n'est pas bien là, tous les trois.
Du 21 au 23 mars, de 10h à 19h, au lycée agricole La Bretonnière de Chaillambry, rendez-vous au carrefour de la biomasse. Chauffage bois, biogaz, isolation écologique, matériaux naturels, découvrez les filières innovantes de Seine-et-Marne. Conférences, tables rondes, ateliers et animations ludiques. Entrée libre pour tous. Professionnels de la construction, agriculteurs, élus, grand public et aussi étudiants. Avec le samedi, la journée porte ouverte du lycée. Du 21 au 23 mars à Chaillambry. Carrefour de la biomasse, des bois et des cultures pour notre énergie. Info, carrefourdelabiomasse.fr.
France Bleu Paris.
Allez, on revient au village international de la gastronomie dans quelques instants, mais tout de suite, comme chaque jour, cet accès privé. Héloïse Erignac va visiter un four. Oui, mais un petit four, hein, qui servait à chauffer les salles chaudes des thermes antiques du musée de Cluny. Vous savez, au boulevard de Saint-Germain, situé à l'angle du boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, dans le 5e. Isabelle Bardier-Fronty, conservatrice en chef au musée, la guide dans ses vestiges.
Voilà, tous ces vestiges appartiennent à un complexe thermal antique qui correspondait à ce qu'on appelle les thermes du nord de Lutèce. Pourquoi ? Parce que la ville occupait le quartier qui ne s'appelle pas Latin pour rien. Et nous étions à l'extrémité nord en allant vers le fleuve.
On est à quelle époque ?
Alors, la construction précise, nous ne la connaissons pas. Donc on raisonne par logique. Et la logique du développement urbain de Lutèce, c'est plutôt la fin du 1er siècle pour construire un bâtiment comme celui-ci.
On est où ici, là ?
Pour aller vers les sous-sols. Et certains lieux où malheureusement nos visiteurs ne peuvent pas pénétrer, nous traversons la grande salle froide des thermes de Lutèce, qu'on appelle un frigidarium. Elle culmine à 14,50 m de haut. Le plafond est exceptionnel en ce que c'est une voûte antique encore debout qui n'a jamais été abattue, au contraire de sa voisine, et qui donc est dans son état. Il vous manque le décor, hein, par contre.
Vous m'emmenez au petit four,
voilà,
donc.
C'est là, je vous amène.
On passe sous une voûte qui est fermée par une grille, alors, un peu coincée dans la terre, ça ne s'ouvre pas souvent ça.
Attention la tête.
Là on est sous le boulevard.
On est sous le trottoir.
Sous le trottoir du boulevard Saint-Michel. Voilà.
Alors un des moyens de savoir qu'on est dans une salle chaude, c'est de trouver le petit four qui va bien avec. Et nous y sommes. Nous sommes dans un petit espace, c'est vraiment un endroit où on ne peut venir qu'en tout petit comité et qu'on ne peut malheureusement pas proposer à nos visiteurs. Cependant, c'est un des endroits les plus exceptionnels du complexe thermal de Lutèce, dans la mesure où il est dans un état de conservation extraordinaire. Vous avez sous les yeux, nous sommes en train sur un petit pont tout à fait moderne, de surplomber un égout tel qu'il était conçu par les Romains, avec, voyez, ces tuiles de terre cuite, type tuiles de maison, qui viennent refermer et les petits trottoirs. Il y avait également aménagé ce qu'on appelle des regards de trottoir, des égouts, comme ils fonctionnent encore aujourd'hui. L'eau était nécessaire pour impulser de la chaleur dans un lieu qu'on chauffait fortement au bois. Et ensuite, par un système de suspension, on chauffait par le sol les salles des usagers pour ce qu'on appelait le caldarium, la salle chaude. C'est là qu'on voit qu'il fallait beaucoup de monde au service des usagers des vins. Ça coûtait très cher en argent public, cette affaire, parce qu'il fallait relayer pour obtenir, l'archéologie expérimentale nous répond, quelque chose qui peut aller jusqu'à 27-28 degrés. Mais c'est déjà bien suffisant, par contraste, avec le frigidarium.
L'eau passait donc dans cet égout. Mmh. Et alors, où est-ce que ça chauffait ?
Si vous reculez de quelque part, vous revenez sur le pas en arrière, vous êtes là dans le foyer. Vous avez sur les côtés l'escalier. Tenez, venez avec moi. Attention. Là,
c'est étroit. Hein.
Et voici le petit escalier.
Pas tomber.
Qui servait à notre personnel des thermes.
Qui venait ici prendre des bains ?
Tout le monde. Les thermes publics sont vraiment ouverts à tout le monde. Et un des grands faits de la société romaine, c'est d'avoir pu procéder à ce qu'on appelle une acculturation. C'est-à-dire, en gros, je t'envahis, mais très vite, tu m'adoptes et tu deviens gallo-romain le plus vite avec, moi j'appelle toujours ça le Roman Way of Life. C'est-à-dire cette force de proposition extraordinaire du théâtre, de la musique, les thermes. Ces populations conquises, au-delà du plaisir de la force de proposition de ces édifices publics, y trouvent une forme d'appropriation directe d'une culture qui, à l'époque, à Milan. Hein. C'est assez fascinant. C'est vraiment un des faits politiques majeurs et c'est une des clés de la réussite du système impérial quand même pendant 5 siècles.
Tout ça autour de bains.
et le bas nous amène à tout ça.
Les vestiges des thermes antiques de Lutèce sont visibles du boulevard Saint-Germain, mais n'hésitez pas à pousser la porte du musée hein, pour y découvrir de très impressionnants le Frigidarium ou vous inscrire aux visites guidées des galeries souterraines des thermes. À demain, Héloïse Erignac.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi 37, si vous nous rejoignez, c'est bien France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on se régale d'avance. On s'intéresse au village de la gastronomie et des cuisines populaires qui vous donne rendez-vous dès demain, juste en face de la Tour Eiffel, dans les jardins du Trocadéro. C'est jusqu'à dimanche, 10h, 22h. Un vrai tour du monde des cuisines, de nombreux pays présents avec des chefs, des produits, la culture de ces pays-là, la musique de ces pays-là. Pour en savoir plus, nous sommes avec Sébastien Ripari, fondateur du Bureau d'études gastronomiques et un des organisateurs, on peut le dire, Sébastien.
Un grand partenaire.
Et Grégory Cohen, c'est un chef que vous pourrez rencontrer dans cette 4e édition, puisqu'il y aura, on le disait tout à l'heure, des démos, des démonstrations. La Géorgie est le pays invité d'honneur cette année, c'est comme ça, la Géorgie... C'est un pays, alors moi je ne savais pas qu'il y avait une gastronomie, mais il y a des gastronomies finalement dans le monde entier.
Absolument.
Mais alors la gastronomie géorgienne, elle pourrait ressembler à quoi, Sébastien ?
Elle est assez intéressante parce qu'elle est entre, la Géorgie est entre l'Orient et l'Occident.
Ben oui.
Il y a effectivement la partie occidentale qui va se rapprocher plus de la Turquie et la partie orientale qui va évidemment être plus proche de la cuisine perse. Donc c'est une cuisine... à base de viande, d'épices, assez goûtues, assez fortes. Les grandes spécialités, je crois qu'on les connaît assez bien, c'est le khinkali, c'est les raviolis. Vous voyez, ces petits raviolis un peu sautés comme ça, à base de viande et d'épices.
Bah oui, et
le cachapouri, qui ne connaît pas le cachapouri, c'est le pain avec les œufs. Non, c'est vraiment, c'est une cuisine, et il y a une petite particularité, alors à consommer avec modération, comme il faut le dire, mais vous savez que c'est un des plus grands producteurs de vin, la Géorgie, et des vins en amphore. C'est une grande, grande tradition d'avoir des vins, donc des amphores qu'on enterre, dans le sol, et comme ça, l'oxygène va être diffusé de façon différente dans le vin, puisque la terre est poreuse, et ça donne des vins plus forts, un peu particuliers, et sont un des plus grands pays producteurs de vin, la Géorgie, voilà.
Ben voilà, c'est l'avantage de ce village international, parce que dans village international, il y a international, et c'est effectivement un moyen de découvrir d'autres cultures, ça fait toujours du bien. Grégory Cohen, votre cuisine, vos créations à vous, est-ce qu'elles ont une ou plusieurs nationalités ? Est-ce que vous êtes inspiré par d'autres cuisines, comme ça, d'autres pays ? Ça vous est arrivé, ça ?
Ah oui, ça m'arrive tout le temps. Pour moi, un chef, c'est une bibliothèque de saveurs, une bibliothèque de couleurs, et il est capable de se rappeler, de ce qu'il a mangé, de quel goût ça a, et comment est-ce qu'on va pouvoir les associer ensemble ou différemment. Et puis aussi, à un certain niveau, la temporalité des différentes saveurs. Par exemple, si j'intègre de la fève de tonka dans un plat, la fève de tonka, elle va être très 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 longue en bouche. Si je travaille le réfort va piquer, mais il va avoir une temporalité qui est très courte. Il va s'arrêter immédiatement. Donc en fait, j'utilise moi tout ce que j'ai assimilé, tout ce que j'ai eu à travers mes voyages culinaires qui sont parfois pas très loin, parfois dans nos régions ou parfois plus loin au Japon. Ouais. Et je ramène un petit peu de tout pour assembler une cuisine qui est la mienne.
On va en parler de nos régions dans un instant. Le village de la gastronomie et des cuisines populaires, c'est donc un bon moyen de constater qu'on mange bien partout, certes, mais les tendances actuelles, le bio, le végétarien, le vegan, le consommer proche, comment on dit
Le locavore.
Est-ce que ça fait partie aussi des grandes tendances qu'on va pouvoir découvrir dans ce village international ? On en parle dans 3 minutes.
France Bleu, Paris. France Bleu.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je remue le ciel, le jour.
Dernière danse, Indila, sur France Bleu Paris.
France Bleu.
Bonjour.
Une heure en France sur France Bleu, des montagnes d'innovation.
Une restauratrice vient nous parler du chantier qu'elle entreprend en ce moment à l'Arc de Triomphe. On passe un speed working d'agriculteurs en Vaucluse et on se fait coiffer dans la Nièvre où depuis 7 générations, la même famille joue du ciseau.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h. France Bleu Paris.
60 pays, oui, 60 pays, des concerts, du folklore, des démonstrations de chefs, des produits qu'on pourra acheter évidemment sur place et des produits du monde entier. C'est le village international de la gastronomie qui réunit dès demain toutes ces cuisines populaires du monde, un vrai métissage culinaire. C'est donc en face de la Tour Eiffel et nous sommes pour en parler encore pendant quelques minutes avec Sébastien Ripari et Grégory Cohen, l'un des chefs présents sur cet événement. Il y a beaucoup de rendez-vous. Est-ce que on a l'exclu à Paris de ce genre de grand rendez-vous avec autant de personnalités, autant de pays, autant de cuisines,
De ce que je connais dans le monde sur l'ouverture du grand public, surtout à un prix pareil, ça n'existe pas.
D'accord.
Il y a des petites manifestations, mais je pense que c'est la plus importante actuellement à travers le monde.
Alors profitons-en, c'est de 10h à 22h dès demain. Est-ce que les grandes tendances actuelles, on en parle depuis des mois, voire des années maintenant, la cuisine végétarienne, le vegan, le bio, le locavore, c'est-à-dire acheter des produits qui ont poussé, qui ont
moins de 100 km de chez soi.
Ça fait partie des grandes tendances internationales ou est-ce que c'est très franco-français?
Alors ça fait partie des très grandes tendances internationales où on part du principe qu'on mange ce que l'on est.
Oui.
Et donc on s'est rendu compte qu'il y a eu une surconsommation, une surproduction et des surexcès à peu près dans tout et l'industrialisation en est malheureusement à la cause. On a tout industrialisé pour faire un rendement absolu au détriment de beaucoup de choses, au détriment de la qualité, au détriment de la souffrance animale, au détriment de la naturalité des produits où on décide qu'une carotte doit pousser à n'importe quel moment, quel que soit le temps et en un temps record. Visiblement, c'est pas ce qui était prévu au départ. En fait, dès qu'on transforme l'aliment, c'est comme si on avait un arbre à plein de branches et qu'on coupe toutes les branches et puis on se retrouve avec une tige. Ça n'a plus rien à voir avec un arbre et souvent c'est comme ça l'alimentation malheureusement.
C'est une prise de conscience internationale donc vous avez l'impression.
Alors moi ça fait une dizaine de jours que je suis en train de me renseigner autour de ça sur un projet personnel et je peux vous dire que les pays Danemark, Hollande, Norvège, Suède, les États-Unis, ils ont 5 ans d'avance. Ils sont en train de faire des programme à Brooklyn vegan une fois par semaine pour les enfants. Alors je suis pas vegan, je suis pas végétarien. Par contre, je suis pour une consommation raisonnée. Sur l'utilisation, par exemple en France, des doggy bags, la possibilité de partir au lieu de jeter. Oui. Il y a toute une politique absolument incroyable d'une puissance tétanisantes qui seront la sauvegarde de la planète.
Très bien. Est-ce que ce village, c'est aussi un moyen de constater où en est la cuisine française et son image à travers le monde, Sébastien, à Paris?
Je pense parce que il y a les petites régions également qui sont présentes et puis il y a les cuisines françaises puisque nous avons effectivement la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion qui sont la France et qui ont des particularités culinaires différentes. La cuisine française se porte bien, se portera toujours bien, mais elle n'est plus la seule cuisine du monde et l'intérêt c'est de pouvoir s'amuser ensemble autour d'autres cuisines. Il n'y a pas une façon de cuire la viande parfaite. Mmh. Il n'y a pas un morceau de viande. Vous savez, par exemple, la découpe en France, ce qu'on appelle la découpe à la parisienne, c'est une façon très classique de découper la viande. En Amérique du Sud, ils la découpent différemment. Vous avez des morceaux que vous ne trouverez pas. Mais ils sont tout aussi bons.
Ouais.
Et tout aussi bien cuit. Donc c'est plus l'idée de partager autour de ça.
Il y aura peut-être des produits franciliens, parce que n'oublions pas que l'Île-de-France, c'est une terre agricole importante. Il y a de plus en plus d'exploitations, reprises par de plus en plus de jeunes. Il y a des produits qui sont fabriqués, et tous les produits sont fabriqués en Île-de-France.
Nous, on les Il y a eu une grande période du terroir parisien, absolument, avec des grands chefs qui avaient signé certains restaurants de ce nom, terroir parisien. On a toujours été présents, mais on n'est plus sur les légumineux, sur les pommes de terre. On n'est pas une terre de grand soleil, donc il faut...
Non, mais il y a de la patate.
Mais il y a beaucoup de pommes de terre, absolument. Absolument.
Et des endives.
Et des endives. Et du cresson.
Et du cresson.
Et voilà.
Il y a plein de produits franciliens. Et j'espère qu'on les retrouvera également.
Bien
Grégory
sûr.
Cohen, pour se lancer dans ce métier de la cuisine, ça sera la dernière question. Faut quoi comme qualité pour être un bon chef?
Il faut de la curiosité, il faut de la patience, il faut de l'abnégation et il faut être un bosseur.
Et avoir une page Facebook qui marche bien.
Et être en fait dans le temps, dans la mesure où on aime partager, on utilise les réseaux sociaux pour partager de la même façon, c'est une extension.
Très bien, bah, je vous interrogerai pour notre page Facebook dans un instant. C'est à partir de demain, c'est jusqu'à dimanche, c'est vraiment la sortie, la balade idéale pour toutes les générations, pour toute la famille, les amis, tout ça, allez-y. C'est un vrai tour du monde des saveurs, des cuisines, des folklores, le tout dans un beau décor, la Tour Eiffel sera en face de vous. C'est le village de la gastronomie et des cuisines populaires, c'est avec France Bleu, on est bien contents, merci. Sébastien Ripari, merci Grégory Cohen d'être venu nous ouvrir l'appétit. Merci d'être passé aujourd'hui par ici.
Merci Laurent.
Bon,
merci
l'année prochaine, hein, Sébastien.
Toutes les années. À bientôt.
France Bleu Paris. France Bleu.